18h-20h,
votre grand journal du soir,
Nathalie Lévy.
Bonsoir à tous, bienvenue dans votre rendez-vous, votre grand journal du soir. C'est parti pour 2 heures d'infos, d'analyse, de débat, toute l'actualité ensemble jusqu'à 20h. Alors à la une ce soir, l'inquiétude, elle est bel et bien réelle, celle des parents d'élèves dont les enfants étaient en vacances scolaires en Italie. L'Italie est touchée par le coronavirus, notamment la Toscane et la Sicile. Europe 1 est sur place ce soir. Ce sera dans le journal de Sébastien Krebs qui nous rejoint dans un petit instant dans ce studio. L'épidémie est donc aux portes de la France, vous l'avez compris. Le député des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti, demande un plan d'urgence. Il sera mon invité dans 20 minutes en direct. Le risque d'une extension sur le reste de la planète s'accroît. On en débattra avec nos grandes voix dès 18h30 et bien sûr avec vous au 39-21, l'économie mondiale. Bien entendu, la Chine a contribué à plus de 40% à la croissance du PIB mondial sur la période 2010-2020. Le sujet est donc très largement d'importance aussi sur le plan économique. À 19h30, une découverte. Un comédien dont on parle de plus en plus. Il incarne un dépressif rigolo, un adolescent, comme on dit, dans Mes Jours de Gloire, en salle demain. C'est Vincent Lincoste qui nous accompagnera jusqu'à 20h. Mathieu Charrier aussi pour Mardi Cinéma. C'est parti, nous écoutons Le Monde changer ensemble jusqu'à 20h.
Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
Pendant 14 jours après le retour, votre enfant ne peut pas être accueilli à l'école. Ça me fait peur, oui, ça c'est sûr.
Des enfants écartés de l'école pour 2 semaines, pure mesure de précaution pour ceux qui reviennent d'Italie du Nord.
L'Italie où 2 nouvelles régions sont touchées par le coronavirus et où un hôpital de la région de Milan est pointé pour des dysfonctionnements.
Il y a eu une gestion au niveau d'une structure hospitalière pas complètement appropriée.
Nous sommes ce soir sur place en Italie, l'inquiétude bien au-delà de la Chine. Le monde n'est pas prêt à faire face, dit ce soir un représentant de l'OMS.
Nous passerons le coup de fil du 18h en région lyonnaise. Faut-il vraiment laisser venir des supporters italiens demain à Lyon pour le match contre la Juventus de Turin?
Dans ce journal également, la porte est bien ouverte, reconnaît Édouard Philippe. Porte ouverte à l'utilisation de l'article 49.3 pour faire passer la réforme des retraites.
Lorsqu'il faut prendre ses responsabilités, je le fais sans hésiter. Et j'utilise rien que la Constitution, mais bien toute la Constitution.
La Cour des comptes qui n'est pas tendre avec le gouvernement sur les déficits et les aides au logement. Et puis écouter la musique changer, ou plutôt la façon dont on l'écoute. L'industrie du disque revit grâce aux plateformes légales.
Et au vinyle.
La Bourse de Paris décroche à nouveau ce soir de 1,94% à 5680 points.
Bonsoir Anissa.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
La tendance avec vous pour la météo.
Ouh là là, demain c'est de plus en plus hivernal. Le programme pour quasiment toute la France, des averses, du grésil, des coups de tonnerre et des chutes de neige en pleine demain. Tout ça accompagné de vent fort.
L'hiver
c'est
commence
le programme.
Quoi.
Ça y est, demain c'est l'hiver et les températures sont en chute libre. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nathalie Lévy, Sébastien Krebs.
Des enfants gardés loin de l'école, par précaution. On vous parlait dès hier de ces consignes données par le ministère de la Santé pour tous ceux qui reviennent des régions du nord de l'Italie. 14 jours sans aller en classe pour ne pas prendre le moindre risque. Mesure qui commence à avoir des conséquences. Bonsoir Théo Manval.
Bonsoir.
Notamment dans une école du 9e arrondissement où 2 enfants doivent rester à la maison.
Oui, 2 jeunes filles scolarisées en CM2 et qui revenaient de vacances dans le nord de l'Italie avec leurs parents. Elles ont d'abord repris l'école comme les autres hier. Mais dans la soirée, la directrice a appelé les parents pour leur demander de laisser leur fille à la maison pour 14 jours. Les nouvelles consignes ont été placardées à l'entrée de l'école et envoyées par mail à tous les autres parents comme Leandro qui a un fils en CP.
Elle m'avait envoyé ça. Si vous et votre enfant avez séjourné à Chine, Corée, Italie, en Lombardie, en Vénétie, pendant 14 jours après le retour, votre enfant ne peut pas être accueilli à l'école. Ça m'assure pas, ça me fait peur, ouais, ça c'est sûr. Mais je ne sais pas s'il y a un problème, je ne sais pas.
Alors non, on le rappelle, ce sont uniquement à ce stade des mesures de précaution, prises aujourd'hui d'ailleurs pour 2 autres écoliers à Paris. On l'apprend ce soir, 8 élèves aussi d'un lycée de Courbevoie dans les Hauts-de-Seine qui revenaient de Vénétie, ou encore 5 jeunes d'un conservatoire de Villeneuve-sur-Lot rentrés hier de Lombardie, tous invités à rester chez eux pendant 14 jours.
Théo, pourquoi est-ce qu'on isole les enfants et pas les parents alors?
C'est vrai que la question m'a été beaucoup posée devant cette école, parce que les consignes qu'on donne aux adultes qui reviennent de ces zones seraient trop difficiles à faire respecter aux enfants, éviter le contact les uns avec les autres. Vous voyez une cour d'école, porter correctement son masque toute la journée quand on a 6 ou 7 ans, c'est pas garanti. Il y a trop de risques que ça ne fonctionne pas et que les écoles se transforment en nid de propagation d'une épidémie, ce que le gouvernement veut éviter.
Les précisions ce soir de Théo Manval pour Europe 1.
Et on y reviendra bien entendu hein, avec d'autres éléments et d'autres sujets. Éric Ciotti, notamment notre invité dans 20 minutes. Précisons en tout cas qu'il n'y a plus aucun cas de contamination en France, même si l'épidémie prend de l'ampleur à nos frontières en Europe.
Et en particulier en Italie, où deux nouvelles régions sont touchées, la Toscane et la Sicile. 283 cas à travers le pays, 7 morts. La région de Milan reste la plus fortement touchée et des questions sont soulevées ce soir sur l'origine de ce foyer. Bonsoir Romain Oquet.
Bonsoir.
Vous faites partie des reporters d'Europe 1 présents sur place en Lombardie. Le gouvernement italien a reconnu aujourd'hui des dysfonctionnements dans un hôpital local.
Oui, c'est une information déterminante car c'est la première fois que Giuseppe Conte désigne un responsable, à savoir un hôpital. Les dysfonctionnements de l'établissement auraient favorisé la propagation du virus. C'est ce qu'a expliqué le Premier ministre italien ce matin lors d'une conférence de presse.
Il y a eu une gestion au niveau d'une structure hospitalière pas complètement appropriée selon les protocoles de prudence recommandés dans tel cas. Et cela a certainement contribué à la diffusion.
Alors Giuseppe Conte désigne sans le nommer l'hôpital de Codogno, le foyer de l'épidémie en Lombardie. C'est dans cet hôpital qu'a été admis le patient 1, le premier cas en Italie. Il s'agit d'un homme de 38 ans, toujours en soins intensifs. C'est lui le point de départ d'une grande partie des cas recensés dans la région. Les chercheurs veulent désormais comprendre comment cet homme a contracté la maladie, car lui n'est pas allé en Chine. Son entourage n'a pas non plus été contaminé. Il faut donc trouver le patient 0, celui qui a importé le virus en Italie. Les pistes mènent pour l'instant à un agriculteur de 60 ans originaire de Vénissie, une énigme à résoudre et qui permettrait de mieux mesurer la propagation du virus en Italie.
Romain Oquet, envoyé spécial d'Europe 1 en Lombardie.
Et ce soir, le ministre de la Santé italien réunit ses homologues des pays voisins, dont le ministre français Olivier Véran à Rome, pour coordonner l'action européenne avec les propos du ministre à l'instant.
Et j'ajoute que la Suisse et la Croatie ont connu aujourd'hui leur premier cas. En Iran aussi, l'épidémie prend de l'ampleur. 15 morts et une centaine de cas annoncés, dont le vice-ministre de la Santé lui-même contaminé.
Et le ministre de la Santé chez nous, Olivier Véran, l'indique à l'instant. Pas de fermeture des frontières, c'est disproportionné à l'heure où nous sommes. Pas lieu d'annuler non plus, à ce stade, les grands événements sportifs, tant que les scientifiques ne le demandent pas. Quant au partage des données et des coopérations, eh bien, c'est intégral à l'heure qu'il est. Tout se fait de la manière la plus transparente, dit Olivier Véran à la sortie de cette réunion à Rome.
Et puis aux Canaries, sur l'île espagnole de Tenerife, des centaines de touristes se retrouvent confinés depuis ce matin dans un hôtel. Un vacancier italien a été dépisté positif. L'hôtel a été placé à l'isolement dans l'attente de nouveaux examens pour confirmer la contamination.
Dans ce contexte, des voix s'élèvent pour prendre des mesures bien plus drastiques en France. Aujourd'hui, Marine Le Pen a demandé le rétablissement des contrôles aux frontières.
Et une décision fait particulièrement débat. Le match de foot entre l'Olympique Lyonnais et la Juventus de Turin aura bien lieu demain en Ligue des Champions à Lyon et les supporters italiens seront autorisés à venir.
Et c'est notre coup de fil du 18h ce soir. Bonsoir Christophe Quignou.
Oui, bonsoir.
Vous êtes le maire de Mézieux, commune où se situe justement le Groupama Stadium qui accueille le match. Pourquoi demandez-vous à l'État de revenir sur cette décision ?
Parce qu'il me semble que cette décision est irresponsable, qu'à un moment où on ne connaît pas le taux de propagation du virus et qu'il y a des craintes sur sa diffusion au niveau du territoire français, laisser venir 3000 supporters n'est pas raisonnable.
Le ministre de la Santé, pourtant lui-même, est très clair. Il dit qu'il n'y a aucun argument, ni scientifique, ni médical, qui justifierait d'interdire cet événement ou même de le fermer aux supporters, notamment parce que les zones contaminées en Italie, elles sont aujourd'hui confinées.
Oui, mais le ministre disait l'inverse il y a deux jours. Et les populations autour du stade, elles, sont très inquiètes et demandent justement à ce qu'il y ait des mesures qui soient prises.
Vous disent quoi exactement, les populations ?
Elles nous disent qu'elles ont peur que des Italiens viennent propager sans contrôle ce coronavirus.
Vous allez prendre des mesures particulières demain sur votre commune ?
Alors, moi, je n'ai pas les moyens de prendre des mesures directement sur ma commune, qui est juste à côté du stade. Les seules choses que je vais faire, c'est essayer de dissuader le contact avec, au maximum avec tous ces supporters.
Est-ce que vous avez pour autant des informations de l'État qui, au moins, prévient, informe, rassure ?
Non, aucun contact de l'État avec ma commune. Le coup était trop important. Je suis laissé seul.
Eh bien, on a entendu votre réaction ce soir. Merci Christophe Quignou d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes le maire de Mézieux où aura lieu ce match demain près de Lyon.
Voilà, donc faut-il prendre des mesures plus restrictives au nom du principe de précaution ? On en parle également juste après le journal avec mon invité Eric Ciotti, député LR des Alpes-Maritimes. On en débat également avec les grandes voix à 18h30 dans ce studio.
Enfin, sur le plan économique, pour être tout à fait complet ce soir sur ce sujet, sachez que la Banque de France s'apprête à réviser légèrement sa prévision de croissance pour l'année 2020, qui était jusque-là à 1,1%.
Il est 18h08, vous écoutez Europe 1, la suite du journal. Nathalie Lévy, Sébastien Krebs.
L'actualité politique, c'est la réforme des retraites qui continue d'agiter les débats à l'Assemblée nationale, examen paralysé par la stratégie d'obstruction de la France insoumise. Aujourd'hui, les Républicains ont demandé à repousser complètement le débat au-delà des municipales. Et le Premier ministre, Édouard Philippe, a clairement laissé la porte ouverte à l'utilisation de l'article 49.3 qui permettrait une adoption sans vote.
Mon sujet, mon ambition, c'est évidemment de faire en sorte que le débat ait lieu, qu'il soit le plus sérieux, le plus approfondi. Mais si ça n'est pas possible, si, au bout de très nombreuses heures de débat, nous constatons que ça n'est pas possible, alors la Constitution, Monsieur Abadé, Monsieur le Président, vous le savez parfaitement, autorise, le cas échéant, le Premier ministre à utiliser un article, le 49.3. Lorsqu'il faut prendre ses responsabilités, je le fais sans hésiter. Et j'utilise toute la Constitution, rien que la Constitution, mais bien toute la Constitution.
Voilà, Édouard Philippe, tout à l'heure à l'Assemblée, propos recueillis par Adrien Beck.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
La Cour des comptes, elle n'est pas tendre avec le gouvernement sur les déficits et les aides au logement. C'est à suivre dans votre journal, Sébastien.
Et puis écoutez, la musique changée. Plutôt la façon dont on écoute la musique, l'industrie du disque qui revit grâce aux plateformes légales et aux vinyles. À tout de suite.
Deux heures d'info, c'est votre grand journal du soir pour écouter le monde changer sur Europe 1. 18h11 sur Europe 1, la suite du journal avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
La France ne fait pas assez pour limiter ses déficits. C'est la conclusion du rapport de la Cour des comptes publié aujourd'hui même, avec des mots qui ne sont pas franchement tendres pour le gouvernement.
Ambition limitée, redressement des finances à l'arrêt, notamment après les mesures de réduction d'impôts. Et puis il y a un deuxième point important sur lequel on s'arrête ce soir avec vous, Olivier Samin. Bonsoir.
Bonsoir.
Ce sont les aides au logement jugées trop compliquées, voire injustes.
Oui, la critique porte notamment sur la possibilité pour les étudiants de toucher l'APL tout en étant rattachés à leurs parents, ce qui revient dans les faits à supprimer les conditions de ressources. Si vos parents ont un bon train de vie, c'est tout bénéfice pour eux. Ils n'ont pas à vous aider pour payer votre loyer puisque les aides au logement s'en occupent. D'où la recommandation déjà faite par la Cour il y a 5 ans, imposer le choix pour les étudiants entre percevoir l'APL ou être rattachés au foyer fiscal de leurs parents. L'un ou l'autre, mais pas l'un et l'autre. Au-delà de ça, c'est le système tel qu'il fonctionne aujourd'hui qui est pointé du doigt. La complexité du dispositif s'est accrue pour l'allocataire ces dernières années, dit le rapport, et sa lourdeur de gestion non seulement génère des coûts, mais en plus augmente les risques en termes de fraude et d'erreur.
Alors Olivier, partant de là, la Cour des comptes salue la réforme que le gouvernement va mettre en place.
Oui, réforme plusieurs fois retardée, qui doit s'appliquer en principe à partir du 1er avril prochain et qui vise à calculer les aides au logement à partir des revenus actuels du bénéficiaire et non plus à partir de ce qu'il touchait 2 ans plus tôt. Plusieurs associations voient dans cette réforme un moyen de réduire la facture des aides au logement pour l'État. Le résultat sera bien celui-là, effectivement, mais la Cour des comptes, elle, y voit l'opportunité de rendre le régime plus simple, durable et accessible.
Olivier Samin du service économie d'Europe 1. On retient aussi que le rapport de la Cour des comptes épingle la prestigieuse école polytechnique pour sa situation financière préoccupante.
À l'étranger maintenant, la mort d'Hosni Moubarak. Il avait dirigé l'Égypte d'une main de fer pendant 30 ans.
Avec un parti unique et un appareil policier puissant jusqu'au printemps arabe de 2011 qui le fit tomber. Hosni Moubarak est mort au Caire. Il avait 91 ans. En Iran, inquiétude sur la santé de la Française Farida Adelka, cette chercheuse anthropologue emprisonnée depuis le mois de juin dernier pour des accusations politiques. Elle a été hospitalisée après une grave détérioration de son état. On se souvient qu'elle avait mené une grève de la faim pendant 2 mois.
Et puis on revient en France parce que Bernard Tapie reporte en fait son retour au théâtre. Il devait jouer à partir du mois de mai.
Ah oui, une pièce de théâtre vole au-dessus d'un nid de coucou. Lui qui continue de lutter contre un cancer et suit un nouveau traitement expérimental en Belgique ne pourra pas être sur scène. Traitement très dur à supporter, fait savoir son entourage qui assure qu'il est bien décidé à jouer cette pièce à l'automne.
Il attendait ce projet avec impatience, ça aurait dû commencer le 20 mai. On parle aussi musique ce soir, Sébastien, ou plutôt de la façon dont on l'écoute, c'est aussi le signe d'un monde qui change.
Le marché du disque se porte mieux, croissance plus 5% en 2019. Enfin, je dis du disque, plus vraiment, parce que la musique, on l'écoute désormais sur les plateformes légales et payantes par abonnement. L'évolution dans les chiffres est spectaculaire. Angèle Châtelier.
C'est ce qui devrait sauver l'industrie. Plus de 9 millions de Français payent un abonnement sur Spotify, Deezer ou autre, une progression de plus de 18%, ce qui fait des abonnements payants la première source de revenus devant le CD. Le streaming, à lui seul, représente 59% du marché. Mais le disque continue à se vendre et à générer des revenus, presque 37%, surtout pendant les fêtes. Et c'était sans compter sur le retour du vinyle. Plus 12% en 2019, c'est beaucoup. Et puis, ce ne sont pas que les groupes qui ont déjà quelques années de carrière derrière eux. Angèle, Aya Nakamura, L'Homme Pâle et d'autres vendent aussi des galettes. Et surtout, ces nouveaux talents rayonnent. Un quart des disques les plus vendus sont des premiers albums.
Notre histoire n'aurait jamais pu finir dans le calme et la tendresse.
Mais si depuis 4 ans, l'industrie est en pleine croissance, tout n'est pas encore gagné. Selon le SNEP, le marché rattrape tout juste celui d'il y a 10 ans et ne représente que 44% de celui de 2002, année du début de la crise du disque.
C'est oui ou bien c'est non. Hier tu me voulais. C'est oui ou
bien. Le carton du vinyle, notamment 4 millions de vinyles vendus l'année dernière. Et pas seulement des vieux vinyles, c'est aussi Angèle et les autres.
Et puis ce sont de beaux objets, parce que celui d'Angèle qu'on écoute, il est tout bleu fluo.
Et le retour du disque objet.
C'est ça.
Et vous savez qu'on peut trouver des platines branchables sur ordinateur maintenant. Alors qu'il y a 15 ans, on trouvait même plus de vinyle dans les commerces. Incroyable. Comme quoi, hein. Le monde change. Voilà. Merci à vous, Sébastien. Vous revenez tout à l'heure sans faute à 18h30. Et Anissa nous dit quoi?
Ça change.
Que l'hiver, voilà, que c'est l'hiver qui va commencer maintenant.
Oui, alors. Pas sûr que pas ça loin. Dure très très longtemps. Mais effectivement, demain, nous allons avoir un temps de plus en plus hivernal. Déjà, aujourd'hui, ça a commencé avec cette perturbation qui traverse le pays. Eh bien, cette nuit, c'est quasiment sur toute la France que va s'abattre des averses assez soutenues. Et demain matin, dès le début de la journée, sur la région parisienne, la Bourgogne, le Nivernais, le Massif central, la vallée du Rhône, eh bien demain, là, il va neiger à basse altitude, à partir de 500 mètres, voire même en plaine. Donc vous pourriez voir des rues qui vont blanchir dans le courant de la matinée sur certaines communes. Il y aura également du grésil et des orages. Dans le sud-ouest, les averses, là aussi, seront nombreuses demain toute la journée. En Corse aussi, beaucoup d'averses et de la neige à partir de 1300 mètres. En plus de cette atmosphère très humide, le vent d'ouest, nord-ouest souffle encore demain jusqu'à 90 km/h dans les terres. On aura 90 km/h sur le massif central. Et sur le nord-ouest, le sud, le centre-val de Loire et le bassin parisien, demain dans l'après-midi, on aura droit quand même à quelques éclaircies et un temps un peu plus sec. Les températures, elles baissent 2 à 7 degrés sur la façade ouest demain matin, 7 à 11 au bord de la Méditerranée.